En quoi consiste votre métier d'illustrateur?
Alors, mon métier d'illustrateur, comme beaucoup de ceux qui sont exposés cette année aux Utopiales, en fait, mon métier d'illustrateur au départ se consacre à la couverture de livres, en fait. Donc, on a une relation avec l'éditeur qui nous envoie le manuscrit de l'auteur. Et donc, on est censé faire, disons, une image pour embellir l'objet, pour, comme disent les éditeurs, déclencher l'acte d'achat. Et donc moi, disons, la manière dont j'aborde mon travail, c'est de lire le texte, de m'imprégner un petit peu de l'ambiance générale du texte, et puis de voir quelles sont les images qui sont évoquées par ce texte-là, en essayant de savoir un petit peu quel est le sens de l'histoire, qu'est-ce qu'a voulu raconter l'auteur, et d'essayer d'en faire une image générale, plutôt que de m'attacher, disons, à représenter un détail précis d'une histoire. Je préfère travailler sur le sens global, ce qui fait que j'ai des couvertures assez généralistes, assez peut-être, je dirais poétiques, peut-être, par rapport à d'autres types d'illustrateurs qui sont plus dans une représentation de l'anecdote ou, en tous les cas, du moment précis de l'histoire, en fait.
Merci. Alors, vous avez 49 ans et vous avez fait plus de 300 couvertures. C'est énorme. Vous n'avez jamais été à court d'inspiration ?
Alors l'inspiration, c'est, je dirais, c'est vrai que c'est délicat. Moi, j'ai vraiment conçu mon métier en me glissant dans le texte. Mais c'est vrai que des fois, il y a des textes qui parlent peu ou qui sont difficiles à appréhender. Malheureusement, ça se voit rapidement sur la couverture parce que de temps en temps, on n'est pas très content de ce que l'on a fait, quoi, en fait.
Et donc, quelles sont vos sources d'inspiration ?
Alors, les sources d'inspiration, moi, c'est, disons, mon panthéon personnel en termes au niveau peintre, en fait. Vu mon âge, ça a été un petit peu avec les découvertes en histoire de l'art de peintres surréalistes, de choses comme ça, où il y avait des corrélations entre une idée littéraire, en fait, et puis une représentation graphique de cette idée littéraire. Et puis ensuite, des peintres, disons, qui ont déjà travaillé dans le genre, entre guillemets, science-fiction, comme Wojtek Szymanek, par exemple, à l'époque, qui faisait beaucoup de couvertures pour le livre de poche et le fleuve noir. Des peintres comme Gustave Adolphe Mossa, qui est un peintre surréaliste, symboliste niçois, qui a travaillé beaucoup sur des représentations du carnaval au XIXe siècle, qui a une imagerie assez torturée. Plus proche de nous, il y a Hans-Rudi Giger qui m'a beaucoup influencé, qui est le créateur d'Alien, qui est au départ un peintre suisse, en fait, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et qui travaillait, lui, avec la technique que moi j'ai utilisée ensuite. Donc à travers cette technique-là, ça m'a permis d'exploiter un petit peu son univers et de se l'approprier, je dirais, pour en faire un langage personnel.
Alors, vos illustrations ont-elles toujours un rapport avec la science-fiction ? Et aimeriez-vous illustrer dans un autre domaine ?
Alors, c'est effectivement généralement dans la science-fiction. Bon, j'ai illustré des textes de fantasy, j'ai illustré des textes fantastiques aussi, que j'adore. Enfin, j'aime beaucoup l'horreur, entre guillemets. Parce qu'il y a un questionnement intérieur dans les films d'horreur dans les films ou dans les textes d'horreur ou de fantastique que je ne trouve pas dans la fantasy, par exemple. Je suis assez, c'est vrai que si je dois mettre un petit peu mes priorités, ça va vraiment être la science-fiction pour le questionnement humain général au niveau de la société, le fantastique pour le questionnement individuel, un petit peu introspectif, et la fantasy assez éloignée qui pour moi est quelque chose de beaucoup plus proche, en fait, de la distraction, entre guillemets, que du vrai questionnement. Après, je ne suis pas un expert non plus en fantasy, il y a forcément de belles choses. J'ai illustré des textes comme Robin Hobb, par exemple, où là, je trouve une poésie dans l'écriture qui fait que, du coup, ça me parle au niveau des images. Oui.
Vous avez énormément de couvertures de romans et seulement deux couvertures de jeux vidéo. Ce domaine ne vous plaît-il pas ?
Alors si, ce domaine m'a beaucoup plu à un moment donné. Bon, je suis arrivé, moi, en temps un peu dans le temps précurseur du jeu vidéo. Alors j'en ai un peu plus que deux, en fait. Il y en a deux connus, parce que c'est Alone in the Dark et Waxwork qui ont... Waxwork, c'était un film. Shadow of the Comet, c'était sur le deuxième jeu. Mais j'en ai fait d'autres, en fait. J'ai fait d'autres jeux pour des éditeurs qui ont maintenant largement disparu, parce que ça, c'est des jeux qui étaient joués par vos parents. Mais effectivement, il y en a deux qui sont restés parce que c'est dans un univers proche de Lovecraft. Et Lovecraft, donc, est encore un écrivain, très demandé et très, disons, qui a encore un bel essor encore devant lui au niveau publication. Mais voilà, Alone in the Dark, ça reste emblématique parce qu'il y a eu les films, parce qu'il y a eu les jeux et parce que ça reste la première couverture, disons, d'un jeu qui avait ensuite un gameplay assez différent de l'époque, qui était moderne et qui a été un des précurseurs en termes de gameplay de tous les jeux modernes, en fait.
Quels sont les moyens techniques que vous utilisez pour vos couvertures ?
Alors, pendant 25 ans, j'ai travaillé à l'aérographe exclusivement. C'est un petit pistolet à peinture qui me permettait d'avoir des dégradés, d'avoir des effets directs. On travaille avec un compresseur, on travaille avec des matières liquides et l'air. Et ça, c'était vraiment un médium que j'ai rencontré lorsque j'avais 18 ans, puisque c'est des amis à moi qui se sont... disons qu'ils se sont décidés à m'offrir cet aérographe pour mes 18 ans. Du coup, je m'y suis mis et puis ça a été vraiment une rencontre avec ce médium que je connaissais assez peu. À l'époque, on en entendait parler parce qu'il y avait des jeunes qui peignaient sur des mobilettes, les choses comme ça, ce que j'ai fait aussi. Et puis, moi, je l'ai exploré pendant 25 ans sur papier, sur des petits formats, sur des grands formats. J'ai fait du décor, j'ai fait beaucoup de choses autour de cette technique, toujours dans le même univers. Et puis depuis 7-8 ans, je suis passé à Photoshop et à l'informatique.
Nous avons remarqué la présence importante de bleu dans vos œuvres. Pourquoi ?
Alors, c'est parce que vous ne les avez pas toutes, regardez. certes, il y a eu du bleu. Il y a eu un article à l'époque qui avait parlé d'une de mes couvertures concernant justement un des textes d'Ayerdal, où il y avait des personnages bleus, précurseurs de Avatar et autres. C'était pour Mithal, je crois, un texte d'Ayerdal où les habitants de la planète étaient bleus. Après, non, j'ai pas de gamme chromatique préférée. C'est vraiment en fonction de l'émotion que j'ai envie de passer, en fonction du texte, en fonction de la poésie du texte. C'est vrai que ce qui est emblématique dans mon parcours, en fait, il y a deux auteurs, c'était Jean-Claude Dugnac et Ayerdal, plus les autres, mais disons ces deux-là, en fait, m'ont fait vraiment découvrir mes deux palettes, c'est-à-dire une palette plus Hard Science avec Ayerdal, donc avec effectivement des couvertures beaucoup plus bleues, entre guillemets, et Jean-Claude Dugnac avec des couvertures plus intimistes, plus dans des tons chairs, dans des tons ocre jaune, dans des tons plus monochromes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'entre les deux, ma palette s'est étoffée, disons, entre ces deux extrémités-là. Et aujourd'hui, on avait un projet de livre avec Ayerdal avant qu'il décède, concernant Étoile Mourante, donc où c'est un texte qu'ils avaient écrit à deux, et là où je pouvais explorer en fait les deux aspects, en fait, autant un aspect, je dirais pseudo-scientifique, parce que j'ai pas de précision scientifique sur mes dessins, même en art science, et plus poétique avec des choses plus charnelles, plus proches de ton ocre, des choses comme ça.
Et ma dernière question, combien de temps vous faut-il pour réaliser une couverture, à peu près ?
Alors c'est très variable, il y a eu des couvertures qui sont restées, entre guillemets, dans la petite histoire, la littérature française, et qui m'ont pris une journée, ou deux maximum, entre la réflexion et le travail, où il y a eu vraiment un jet, disons, rapide de l'image. Et d'autres où c'est entre 70 et 200 heures quoi, en fait, de travail. Donc ça va entre une semaine, 10 jours de travail, en dehors de la lecture du livre, hein, puisque la lecture du livre fait partie quand même de la création de l'image, mais pour moi fait partie d'une réflexion par rapport au texte, puisque c'est mes amours de lecteur qui m'ont amené à ce métier, quoi.
Donc maintenant, dans cette deuxième partie, on va parler un petit peu des Utopiades, parce que c'est là justement... C'est pour ça qu'on est là. Et donc, pourquoi avez-vous participé aux Utopiades ?
Alors, les Utopiades, pour moi, c'est une longue histoire, puisque je suis un des dinosaures du festival, puisque je suis, impliqué dans les Utopiades depuis 1999, avant que le festival ne soit même à Nantes. Petit à petit, moi, je me suis impliqué parce qu'à l'époque, on avait créé, par exemple, une association qui s'occupait d'illustrateurs, donc qui s'appelait Artefact, avec lesquels on proposait en fait des expositions aux Utopiales. Ça a été dans les années 2000 à 2008. Et petit à petit, donc, j'ai pris part à l'organisation et donc depuis, je suis resté sur les expositions. Voilà.
Donc justement, vous faites quoi dans ce festival? Quel rôle vous jouez dans l'organisation?
Alors aujourd'hui, je suis responsable des expositions des Utopiales, c'est-à-dire ça consiste à discuter avec les différents directeurs des différents pôles de programmation, avec Hugo Bellagamba qui est le directeur artistique général, Marie Masson qui est la coordinatrice, pour voir quels pourraient être les artistes exposés d'une année sur l'autre. Et quels sont, en fonction des actualités de chacun, en fonction de se tenir au courant des actualités des artistes, se tenir au courant des publications, se tenir au courant, disons, de l'importance plus ou moins dans l'actualité de certaines œuvres, pour voir quels pourraient être les expositions programmées. Et ensuite, c'est rentrer dans le dur, quoi, c'est-à-dire contacter l'auteur, voir avec l'artiste ce qui est possible d'être fait, aller chercher dans ses cartons, le forcer un petit peu à sortir des choses qui n'ont jamais été montrées, essayer de trouver un angle, disons, de travail pour qu'il y ait des expositions qui soient autant pertinentes sur le sens que sur la forme. Et là, c'est un œil, je dirais, plus de scénographe, en fait, qui va me permettre de mettre en place un parcours qui soit évident pour le grand public et qui soit pertinent pour l'initié.
Donc un festival, ça doit être dur à organiser. Quels problèmes pouvez-vous rencontrer dans l'organisation?
Alors, il y a les problèmes logistiques, puisque forcément, quand on travaille avec des collaborateurs extérieurs, avec des fournisseurs et autres, il faut tout anticiper. Ensuite, il y a certaines difficultés des fois humaines, simplement parce qu'il y a des artistes que l'on connaît peu ou que l'on découvre au moment de travailler avec eux et qui, dans la difficulté et devant l'ampleur, disons, de la tâche, dans la constitution de leur exposition ou quand ils réalisent, disons, qu'il y a un grand lieu comme la Cité des Congrès qu'il va falloir habiller avec des œuvres, là, des fois, on se retrouve effectivement avec des contraintes qu'on n'avait pas forcément prévues. Mais disons, c'est notre job d'anticiper et d'essayer de répondre à tout pour que ce soit prêt le jour J.
Est-ce que c'est vous qui concevez les expositions, ou alors au contraire, est-ce que ces expositions tournent à travers le monde?
Alors on n'a pas d'exposition, on ne récupère pas entre guillemets d'expositions qui sont déjà conçues. Il y en a eu. Aujourd'hui, la Cité des Congrès et le Festival sont rentrés plus dans une politique de production d'expositions. Ce qui fait que quand on a un artiste que l'on souhaite exposer, alors il y a des artistes qui sollicitent le festival pour exposer, donc dans ce cas-là, on regarde quand même ce qui est proposé, on regarde si ça peut être pertinent par rapport à la programmation, mais dans le cas contraire, on va effectivement tout faire pour que ce soit produit par le festival, et à ce moment-là, donc ce sont des expositions qui n'ont lieu qu'une fois, c'est-à-dire ici. Oui.
Donc est-ce que vous pouvez nous conseiller une exposition en particulier, votre coup de cœur ?
Ah ben là, disons, moi, le coup de cœur de cette année, c'est forcément l'exposition de Philippe Manchu, qui est un artiste qui, pour moi, est le plus grand illustrateur français, voire ailleurs, de SF, puisqu'il connaît par cœur la science-fiction, il connaît par cœur la technologie, il a une énorme précision quand il met en place, que ce soit un vaisseau spatial, que ce soit une astéroïde ou un univers complet, il essaie d'être le plus précis possible, tout en nous invitant par le réalisme qu'il met dans ses détails, par la poésie de ses compositions, tout en nous invitant à croire à ces images-là, en fait.
Donc, en un mot, est-ce que vous pouvez résumer les Utopiales ?
Résumer les Utopiales ? Alors, résumer les Utopiales, c'est quand même un beau challenge. Je dirais que c'est avant tout un festival qui a permis à une bande de fanatiques, une bande de passionnés, qui étaient éparpillés chez eux, qui étaient cachés au fond de leur bibliothèque, dans leur fauteuil, en train de lire des livres merveilleux, de rêver sur des univers entiers, C'est un festival qui a permis à ces gens-là, en fait, de faire découvrir leur passion au grand public et de mettre en avant un genre qui a toujours été considéré comme mineur, comme, entre guillemets, adolescent, ou en tous les cas, quelque chose qui n'avait peu ou pas d'impact sur la société, pour les amener à réfléchir, pour les amener vers le grand public et que le grand public se rende compte qu'effectivement, la science-fiction était un sujet de réflexion réelle, puisque... Il faut quand même considérer que les lecteurs, disons, des années 30 à 50 sont les ingénieurs d'aujourd'hui ou en tous les cas des années 80, et qui fait qu'aujourd'hui, les objets réels dans lesquels, qui nous entourent sont issus pour la plupart de ces rêves de lecteurs, quoi, en fait. Donc la fiction a influencé la réalité et je crois que c'est ce que l'on démontre en fait dans le festival au travers des discussions, au travers des panels scientifiques amenés par Roland Lehoucq et Hugo Bellagamba. Toutes ces rencontres montrent que la science-fiction est juste un thème précis pour se poser la question de la société de ailleurs et demain, quelle sera-t-elle, et que ce soit des réponses positives ou négatives, en tous les cas elles sont utiles et nécessaires, il est nécessaire de se les poser, et le festival sert à ça, et moi je sers juste à mettre de belles images autour de ça pour que ça reste agréable, parce que un beau livre, on l'ouvre grâce à la couverture, et donc un beau festival, il faut que l'affiche donne envie de s'y rendre. Et si possible, si on peut faire en sorte que le public en sorte changé, c'est tant mieux.
Ok. Bon, pour finir cette interview, est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose d'autre, n'importe quoi, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter une information ?
Bah, je vais essayer de ne pas vous dire n'importe quoi, comme. simplement venez voir, même si vous n'êtes pas intéressé par la science-fiction, venez voir parce qu'il y a forcément des choses qui vont vous surprendre, vous plaire, vous inquiéter, en tous les cas, ne pas vous laisser indifférent.